VAVA, le groupe d'action non violente antinucléaire, envisage de porter plainte pour violences policières. Selon eux, certains militants ont notamment été brûlés aux mains. Au championnat du monde d'escrime qui se passe à Paris, ça se passe bien pour les Français. Chez les femmes, Laura Flessel et Maureen Nissima sont qualifiées pour les quarts de finale à l'épée. Jean-Michel Lucenay et Gauthier Grumier, à l'épée également, y disputeront également les quarts.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour des enregistrements du jeu des 1000 euros dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui à Saint-Julien-en-Beauchêne à 18h30 et demain à Gap à 18h. À très bientôt dans les Hautes-Alpes.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut les AMG, les Besançons. On est dans la rue et comme on chante tous ensemble... Et on va espérer qu'il va entendre. On lâche rien. Allez, salut à tous. Et on lâche rien.
Ouais, Daniel, mais toujours autant de monde ici à Bergerac en ce samedi matin. Tu vois, je pensais qu'il allait y avoir pas grand monde. Il n'y avait pas trop d'éclat dans les médias. Et puis finalement, il y en a énormément, beaucoup plus que les deux derniers samedis que j'ai fait avec mon petit de 4 ans sur les épaules. C'est super. Parce que là, c'est pas de la haine qui est en train de germer, c'est plutôt un terreau, un humus, tu vois, où je pense qu'il va pousser des graines. Bon courage, à la prochaine, ciao.
Salut Daniel, c'est Laurent, là on est en direct de Grenoble à la manif. Bah écoute, c'est vraiment loin d'être ridicule, il y a vraiment pas mal de monde. Bon, on va pas la faire du style, il y a autant de monde que les autres fois, mais c'est vraiment pas ridicule du tout. Ça fait vraiment plaisir.
Amis du Nord, bonjour. Daniel, bonjour. Ici, les amis de Lille. La manifestation est toujours à son comble. La mobilisation est toujours présente. Et je profite de l'antenne pour demander à Monsieur François Chérec d'arrêter de tenir ses discours démobilisateurs habituels.
Samedi, on était à la manif à Draguignan, dans le Var. C'était une belle manif, elle était calme, elle était déterminée, elle était sereine. C'est marrant parce que les médias parlent de démotivation, le mouvement social marquerait le pas, ils en sont encore à nous compter, voire qu'on est moins. En fin de compte, ils se rendent même pas compte que nous, on compte plus, quoi. Que la volonté de vivre différemment, elle est profonde, quoi. On n'est pas pressé, on est en lutte tous les jours et de manière différente. En ce moment, à Nice, il y a des familles étrangères, tchétchènes pour la plupart, qui se retrouvent à la rue. Il y a un logement qui a été réquisitionné. Ils ont un toit, mais ils ont besoin de tout, de tables, de chaises, de tout ce qui fait le quotidien familial. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site de ADN, l'Association pour la démocratie sur Nice. Pour les Varois qui veulent donner quelque chose pour ces gens qui sont dans la merde, vous trouverez mes coordonnées sur labar.org à la rubrique du repère de Montereau. Vous voyez, la lutte, elle est belle. Elle est belle au quotidien. Et ça, vraiment, ça les emmerde. Ciao, vive, portez-vous bien.
Je dois avouer que je suis resté désarmé face à l'innocence d'Hélène. Cette ingénuité avec laquelle elle balance des choses qui, dans la bouche de quelqu'un d'autre, passeraient pour les pires horreurs. Ce ton prime sautier, par exemple, avec lequel elle s'affiche d'extrême droite. Ce contentement qu'elle manifeste lorsque Julien lui dit que l'entretien s'est parfaitement passé avec son frère à qui elle l'avait recommandé. Elle est trop. Elle est trop. Tu vois, Daniel, Hélène, je l'arracherai à la charrette si on l'envoyait à la guillotine. Je surgirai, monter sur mon beau cheval blanc et arriver à sa hauteur, tendant le bras, je l'attraperai par la taille, l'enlèverai et l'emporterai au grand galop, loin des horreurs de ce monde. Pour Hélène, Daniel, j'ai les yeux de Paris. Le monde est trop bien. Tant qu'il y aura des Hélènes chez les riches, la situation ne sera pas tout à fait désespérée. Merci, Daniel. Merci, Julien, pour cette émission. Sans déconner, j'ai adoré.
Merci pour tous ces messages. Chers AMG, surtout pour le dernier message de Claude, à l'attention d'Hélène. C'est exactement ce qu'on voulait dire et ce qu'on voulait faire. Il y a eu beaucoup de messages sur ce reportage de vendredi, mais le fond de notre pensée, c'est Claude qui l'a deviné. Merci, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, c'est notre émission mensuelle avec le monde diplomatique, avec l'équipe du monde diplomatique, enregistrée à la Java. Et en musique, vous allez voir quelle musique. Et si ma voix est lointaine et incertaine, c'est à cause du Colombo Tantalique. Colombo Tantalique. Si je prends les trois premières lettres de chaque mot, ça fait col, Colombo,
centralite, sirène, coltan, coltan, le coltan. Vous savez pourquoi je vous parle du coltan? Parce que c'est grâce au coltan que vous m'entendez. Le coltan, c'est un minerai, figurez-vous. Et ce minerai est indispensable à la fabrication, entre autres, des téléphones portables. Et ce minerai, eh bien, on le trouve dans la région où je me trouve, enfin, pas tout à fait dans la région où je me trouve, mais où je vais me trouver dès demain, c'est-à-dire le Kivu. Et on va essayer de retracer le parcours de ce minerai au fond du Kivu et le portable dans le portable. Et le scénario de départ, c'est l'idée qu'il y a du sang et de la sueur dans nos portables. En attendant, sur le répondeur de la base JJU au 01 56 40 37 37, voici encore quelques-uns de vos messages.
Je ne sais pas si c'était fluide glacial ou l'autre revue de cette époque-là qui avait fait une chose mais absolument surprenante, c'est d'éditer une carte de con. Je me souviens, je l'avais achetée. Celui qui n'avait pas sa carte de con méritait le mépris. Alors voici que je lance un appel pour que il serait bon de refaire ce truc-là, rééditer dans telle ou telle revue la carte de con. Il faut que ça se refasse. Allez. C'est bientôt la Sainte-Marguerite. A que ciao. Namasté.
Bonjour à tous les AMG du repère du Pays d'Aix. Notre repère du mardi 9 novembre se tiendra à 19h30 au bar du festival en bas du cours Mirabeau. Ce repère prendra une forme un peu particulière puisque Anne-Marie Vaillet viendra nous faire partager son expérience de terrain sur l'intégration des populations étrangères ou d'origines étrangères sur le rôle de l'école. Anne-Marie Vaillet est professeure et militante de terrain. Elle a consacré toute sa vie à l'enseignement des enfants d'origine étrangère et nomade et a écrit le livre « Prof de banlieue ». À mardi soir.
Les résistants du repère des sept tours à Chenché, près du Futuroscope, continuent à se battre. Mardi 9 novembre, dans deux jours, à 20h30, au bar des 7 tours, nous parlerons des retraites autour de l'exposé de Bernard Friot, diffusé début septembre dans l'émission « Là-bas, si j'y suis ».
Amis du Nord et de l'île, bonjour. Donc ce soir, comme tous les mois, rendez-vous à 20h au Café Repère L'Imaginaire, dans le Vieux-Lille, 5 place Louise de Bétigny. À l'ordre du jour, évidemment, une réflexion sur la mobilisation et l'actualité et les actions à mener. Venez nombreux, ce soir, 20h, Café Repère L'Imaginaire. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermez et là-bas, si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique et une petite partie des musiciens du Surnatural Orchestra. Merci, c'est court, c'est bien envoyé et ça illustre parfaitement le titre de l'édito de Serge Halimi, Le Réveil Français. Serge ?
Le réveil français, je pense que vous êtes un petit peu au courant du sujet traité. Ça fait à peu près une quarantaine d'années que la France n'avait pas connu un mouvement aussi long, aussi unitaire, aussi suivi, aussi populaire. Alors évidemment, il me semble que ce mouvement doit beaucoup à la cible, à l'adversaire, au fait que Nicolas Sarkozy est vraiment le vendeur rêvé pour mobiliser contre lui tout un pays, tant il est, on peut dire, détesté à ce stade. Alors, la difficulté, c'est que comme on voit beaucoup Sarkozy et que Sarkozy aide beaucoup à mobiliser contre un mouvement, contre des réformes, entre guillemets, pareilles, on perd un peu de vue le fait que ces réformes ont été mises en œuvre ailleurs par d'autres que Sarkozy et que finalement, ce que fait Silvio Berlusconi en Italie n'est pas très différent de ce que fait Georges Papandréou en Grèce ou José Luis Zapatero en Espagne, à peu près tous dans le cadre de l'épure dessinée par le Fonds monétaire international. Et on a le sentiment qu'un peu partout, l'objectif est le même, Sarkozy ou pas Sarkozy. Et l'objectif, c'est d'en finir avec le système de retraite par répartition pour ouvrir ce marché, ce qui est perçu comme un marché, aux assurances privées. Ça, je crois que c'est la première chose. C'est un mouvement qui mobilise contre Sarkozy, mais qui se mobilise contre des réformes qui ne sont pas uniquement celles de Sarkozy. La deuxième chose, c'est qu'on peut tout de même se réjouir que dans le contexte de crise économique et sociale qu'on connaît, la réaction soit plutôt une réaction progressiste qu'une réaction réactionnaire, voire une réaction d'extrême droite, comme on en connaît dans certains pays d'Europe, et comme on risque de constater que c'est aussi le cas aux États-Unis. Donc, en quelque sorte, les réformes économiques les plus brutales peuvent avoir pour conséquence de faire basculer une partie de la population encore plus à droite. Et ça n'est pas ce qu'on observe en France. Je crois qu'on le doit assez largement à Nicolas Sarkozy. Alors, troisième chose, on nous dit beaucoup, c'est le discours de l'UMP, la rue, c'est la rue contre le Parlement qui serait légitime. Là, à ce stade, ça n'est pas la rue, c'est le peuple français qui s'exprime depuis un certain nombre de fois. Et il me semble que dans le cas d'espèce, sa protestation est d'autant plus légitime que Nicolas Sarkozy, que d'abord l'Assemblée nationale a été élue dans la foulée de l'élection de Nicolas Sarkozy, et que Nicolas Sarkozy, quand il a été élu, n'a jamais parlé de cette réforme des retraites. À vrai dire, vous connaissez les citations, mais il faut toujours quand même les rappeler. À vrai dire, il avait dit qu'il n'y aurait pas de réforme des retraites s'il était élu, puisque 4 mois avant d'être élu, il annonçait le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer. Alors on peut dire promesse de campagne, mais après c'est fini. Ben non, une fois qu'il était élu, un an plus tard, on l'interrogeait sur le report du droit de partir à la retraite et il répondait « je ne le ferai pas, ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français, je n'ai donc pas de mandat pour faire cela et ça compte, vous savez, pour moi ». Bon, alors peut-être que là, ça fait beaucoup. Déjà, on a imposé aux Français un traité constitutionnel européen contre lequel ils s'étaient prononcés. Et on prétend leur opposer une légitimité parlementaire qui n'existe pas et une légitimité présidentielle qui, à l'évidence, n'existe pas non plus. Et c'est d'autant plus beaucoup que, comme vous le savez, ça n'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy parle trop ou trop vite, qu'il prend des engagements qu'il renie par la suite. Vous vous souvenez déjà EDF-GDF, où il s'était engagé à ne pas privatiser. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et de Gaz de France, c'est clair, c'est simple et c'est net. Voilà, on connaît la suite. Et puis il réitérait, parce qu'il en fait toujours un peu plus que nécessaire, EDF-GDF ne sera pas privatisé, le gouvernement ne le souhaite pas et l'Europe ne nous le demande pas. Bon, on connaît la fin de l'histoire. Et puis il y a eu la même chose sur Gandrange, l'usine qui ne serait pas fermée. Il avait promis aux ouvriers de Moselle, le site ne fermerait pas et le site depuis a fermé. Donc disons qu'il arrive que Nicolas Sarkozy parle à contre-temps, mais parfois ça a des effets plutôt réjouissants, comme quand par exemple il disait, vous savez, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Bon là, en ce moment, il semble que le monde entier s'en aperçoive. Alors la dernière chose qui me paraît intéressante, c'est la question des jeunes. Parce que à droite, maintenant, on s'efforce beaucoup, un peu comme Ramayad qu'on voit partout sur les plateaux, qui n'a pas grand-chose à dire, mais ça ne l'empêche pas de le dire un peu partout. On s'efforce, comme Ramayad, de transformer l'affrontement en cours en guerre des générations. Donc ce serait en quelque sorte les vieux qui veulent défendre leur retraite et qui vont la faire payer aux jeunes. Et on ne comprend pas que les jeunes se mobilisent avec les vieux. En d'autres termes, on voudrait, pour balayer les acquis sociaux dont disposait la génération précédente, persuader la génération suivante qu'elle a été abusée et dépouillée par ses aînés. Mais il me semble que si les jeunes se mobilisent, c'est qu'ils ont compris ce qui les attendait. Et ils ont compris, comme un certain nombre d'entre nous, qu'à mesure que le capitalisme enchaîne les crises, il les fait payer à l'ensemble de la société. En d'autres termes, il n'y a pas de bout du tunnel avec ce système. Il y aura une nouvelle crise qui sera payée par un nouveau recul des acquis sociaux. Et la société, le capitalisme, pour tenir, fait toujours payer, en quelque sorte, les conséquences de son incurie à l'ensemble de la population. Et si les jeunes, me semble-t-il, sont opposés à cette réforme qui prend prétexte de leur intérêt à long terme, c'est que eux, ils ont bien entrevu ce tunnel sans fin. Que sera leur avenir s'il n'y a pas un coup d'arrêt qui se manifeste. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est pendant les manifestations, à un moment, il y avait un reportage à la télévision qui pour une fois, n'était pas sans intérêt, qui montrait un manifestant lycéen qui expliquait le sens de son mouvement. Et il a eu un passage que j'ai trouvé assez terrible où il disait « Au début, on a la formation, c'était un lycéen, au début, on a la formation, c'est l'école. Après, on travaille, c'est le plus dur. Et après la retraite, la récompense. Si on nous enlève la récompense, qu'est-ce qui nous reste ?» Et c'est une phrase assez, assez terrible. Vous dites, vous avez 16 ans et vous voyez la retraite comme la récompense dans une vie toujours plus dure. Et je crois que là, en fait, il y a un moment de vérité parce que les libéraux, en ce moment, ironisent beaucoup sur ces jeunes qui pensent à leur retraite. Mais je crois que les jeunes, depuis quelques années, ils ont mesuré que les politiques mises en œuvre débouchent pour eux sur un avenir sans espoir. Et s'ils participent à ces manifestations, à ces cortèges, je crois que c'est parce qu'ils perçoivent que ces manifestations et ce cortège sont les seuls moyens qui leur restent, et qui nous restent aussi à nous peut-être, d'inverser un tel destin.
Alors, si c'est ça, le surnaturel orchestra en petite formation. Merci. Je lutte des classes. Vous avez tous vu ce collant. Vous êtes sans doute collé, vous aussi, sur vos vêtements, les pancartes. Je lutte des classes. On a vu réapparaître cette expression de la lutte de classe, qui était une idée abandonnée, erronée, archaïque, classée, folklorisée, etc. Et ça, ça a intéressé Daniel Linhart, qui est avec nous aujourd'hui, dans le cadre de ce numéro du mois de novembre du Monde diplomatique, et qui s'est intéressé au travail là-dedans, parce que ce que disait déjà Serge Halimi à l'instant, c'est qu'on a compris que c'est la force et l'enracinement du mouvement actuel ne se limite pas à la question des retraites. C'est une question très importante, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres choses qui accompagnent ce mouvement, dont, pour Daniel Linhart, le travail, la question du travail, qui reste spécialement une question cruciale dans notre société et particulièrement importante dans notre pays. Daniel.
Le jeu lutte de classe, c'est très intéressant à mon avis, parce qu'on voit la rencontre entre des gens qui ont été modelés par un individualisme forcené, une mise en concurrence, mais qui d'un seul coup se retrouvent avec tous les autres face à cette contrainte. Et là, je crois qu'il y a une erreur politique énorme. C'est-à-dire le seul enjeu collectif auquel il fallait pas toucher, c'est celui-là, parce qu'il est rassembleur. Tout le monde est dans la même confrontation avec cette même injustice, ce qui est vécu par tout le monde comme une même illégitimité. Il n'y a aucune raison, nous qui nous épuisons au travail et qui n'arrivons pas à garder notre place au travail, de nous reporter l'âge de départ à la retraite. Et donc, il y a l'expérience, le vécu d'un enjeu collectif, ce qui était perdu de vue dans le monde de l'entreprise auparavant. Et donc, il y a une sorte de réarticulation entre des vécus individuels, personnalisés, des difficultés du travail et ce qu'on pourrait exprimer en termes de lutte de classe, parce que effectivement, il y a un mouvement qui naît et qui refait surgir l'idée d'un destin commun, d'un destin collectif dans le cadre du monde du travail. Donc on voit qu'il y a véritablement une cristallisation autour du travail qui représente quelque chose de fondamental en France, puisque plus que dans d'autres pays, c'est à travers le travail qu'on prend pied de façon citoyenne dans la société, qu'on affirme sa légitimité, qu'on en récolte des droits comme des devoirs. Donc il y a quelque chose de très très important. Et c'est vrai que à travers les manifestations et les cortèges sur la question de la retraite, ce qui s'affiche aussi, ce qui apparaît, c'est un énorme désarroi de la part d'une bonne partie des salariés français qui sont déjà en situation tellement difficile, tellement douloureux dans leur situation de travail qu'ils ne parviennent pas à s'imaginer reculer de 2 ans encore l'âge de départ à la retraite. Il y a véritablement ce qu'on peut appeler une précarité subjective. Et ça, je crois que c'est assez important de le comprendre. C'est que même les salariés qui sont en situation de stabilité, c'est-à-dire qui sont en contrat à durée indéterminée ou qui sont aussi fonctionnaires, ces salariés stables se vivent dans une précarité subjective parce qu'ils ne sont absolument pas sûrs de pouvoir garder leur place au travail tellement les exigences sont importantes, tellement ils se sentent pris dans la logique du toujours plus, de contradictions, de tensions et d'arbitraire dans les évaluations auxquelles ils sont soumis en permanence. Donc il y a ce sentiment de ne pas être chez soi dans l'entreprise, de ne pas dominer, de ne pas maîtriser son travail, et donc une inquiétude fondamentale qui caractérise le rapport de chacun à son travail, dans le cadre d'une individualisation forcenée. Et c'est là où ça devient très difficile, parce que les gens sont dans une sorte de corps à corps solitaire avec leur travail. Ils ont vraiment l'impression de n'être plus du tout dans une logique collective, mais ils se sentent totalement abandonnés, isolés, en concurrence avec les autres, dans des situations qu'ils ne maîtrisent absolument pas, parce que le management français développe comme arme patronale la logique du changement systématique. C'est-à-dire, on ne peut contrôler et dominer les salariés, ça c'est véritablement une obsession du management français, que si on les met dans des situations de changement perpétuel. Ça, c'est une expression que les syndicalistes ont mis en avant et qu'on voit dans toutes les entreprises. Restructuration, réforme, déménagement, disparition de métiers, invention de nouveaux métiers, sous-traitance systématique, mobilité imposée. Tout ça pour casser ce qui pourrait être des formes de solidarité, des formes de gestion collective des difficultés du travail et des possibilités d'opposition et de résistance aux exigences démesurées du management. Donc il y a cette atomisation extraordinaire, cette précarité dans laquelle les gens se trouvent, et voilà qu'on leur dit gentiment, eh ben, on va vous reculer de 2 ans le départ à la retraite.
Alors vous avez pris les 3 mots métro, boulot, tombeau qu'on a effectivement lu dans certaines manifs, mais ça fait allusion évidemment au métro, boulot, dodo de 68, mais ça n'a rien à voir. À l'imidi, depuis 40 ans, on n'a pas vu un mouvement aussi puissant, mais c'était pas du tout le même sens. Quand on disait métro, boulot, dodo en 68, on voulait les changements
On disait, moi, je veux pas faire ce même boulot toute ma vie. Je voudrais changer, je voudrais être plus nomade, je voudrais passer d'une chose à l'autre. Je suis pas un fonctionnaire sur des rails comme ça. Et vive la bohème, vive le nomadisme. On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste, hein, pour reprendre le titre du très beau film de GB qui illustre parfaitement cette époque. Pourquoi on disait ça? C'est parce qu'il y avait évidemment le plein emploi à l'époque. La question, elle était d'arrêter de bosser, de moins bosser ou de bosser autrement. Et en tous les cas, si on pouvait, avec du changement, eh ben, le changement, on l'a eu, un changement jusqu'à devenir tous ou presque superflus. Est-ce que malgré ce qu'on vient de vous dire, vous avez quand même des questions à nous poser?
Comment vous expliquez l'inaction des Anglais face aux mesures d'austérité qui ont été annoncées? Est-ce que c'est un différent rapport au travail sur l'île ou...
Serge Halimi?
On a prévu de répondre à cette question le mois prochain.
Parce que, vous revenez le mois prochain.
Enfin, il faut dire que les réformes, enfin, entre guillemets, qui ont été annoncées, l'ont été il y a quelques jours. Donc vous n'avez pas une réaction immédiate. En même temps, elles ont été annoncées par un gouvernement qui sort tout juste d'un scrutin national. Les décisions prises par Cameron sont imputées à ses prédécesseurs travaillistes, ce qui crée un contexte politique un peu difficile dans la mesure où la gauche a supposé qu'elle existe encore un petit peu au Royaume-Uni, peut difficilement se mobiliser contre des mesures qu'on présente comme la gestion, en quelque sorte comme le remède à la mauvaise gestion du gouvernement de gauche qui vient d'être battu par les urnes. Après tout, en France, nous aussi, on a eu une grande contre-réforme des retraites du temps de Balladur, juste après l'élection législative de 93, qui a été terrible et qui a suscité assez peu de réactions, parce que les gens étaient encore sous le choc du résultat électoral qui avait permis le retour de la droite au pouvoir.
Mais là, le mouvement français va faire modèle et la révolution va s'étendre à travers d'abord l'Europe et puis ensuite le monde entier. Musique ?
Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience, mais la solitude. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous, j'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier la codifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocratie. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge. Par manque de lucidité, la lucidité se tient dans mon froc.
Merci. Le Surnatural Orchestra. Merci. Bravo. C'est l'hôpital public qu'on assassine. Qui a dit ça? Un certain Bernard Debré, député de l'Union pour un mouvement populaire. C'est l'UMP. Et c'est Bernard Debré qui l'a dit. C'est ce que nous apprend le monde diplomatique de ce mois de novembre. Et il a dit ça le 3 octobre 2010. ce qui a un peu ému André Grimaldi, qui est avec nous. Et voilà pourquoi il a intitulé son papier « Hôpital public à vendre ». Il se pourrait bien que dans votre hôpital public, vous ayez les clients que Daniel Linhart, ou les patients que Daniel Linhart vient de décrire dans le monde du travail.
Oui, on a surtout les conditions de travail qu'elle a décrites.
Ah oui, c'est vrai que vous travaillez aussi quand même.
C'est les infirmières sont en poule. Aujourd'hui, elles sont aux urgences, demain, elles seront ailleurs. Et ça fait que l'absentéisme augmente. Et ça fait qu'il suffit que trois infirmières sont en arrêt aux urgences de l'hôpital Tenon. Et l'hôpital est obligé de fermer ses urgences, qui se déversent à l'hôpital Saint-Antoine et l'hôpital Saint-Louis, lesquelles sont déjà débordées. Et on est au bord d'une grande crise. Alors même qu'on vous dit et qu'on vous répète sans arrêt, il n'y a pas de manque de personnel à l'hôpital, il n'y a qu'un manque d'organisation. Hein, donc voilà, donc ce que vous avez décrit, pour moi, ça évoque tout de suite ce qui se passe à l'hôpital.
Oui, sauf que les conséquences sont... C'est nous, quoi, c'est les patients.
Ben, les conséquences, oui. Je recevais un mail d'un collègue cardiologue de Mantes-la-Jolie hier. Le centre de cardiologie où on dilate des coronaires quand on fait une angine de poitrine n'est ouvert que le jeudi. Et on va le fermer parce que l'ARS veut fermer. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé mise en place par la loi. Et donc, il faut transférer le patient, mais ça fait déjà 2 heures qu'il a sa douleur. Et il y a 6 heures pour arriver dans le centre d'intervention. Donc, évidemment, il faut 3 heures pour éviter l'hémiplégie. Donc, ce stress-là, oui, vous avez raison, ça va se répercuter sur des patients.
Ça doit vous être présenté comme une modernisation, non ?
Pour nous, c'est... Oui, bien sûr. Et nous, comme des conservateurs. Donc.
Et vous êtes des archaïques et des conservateurs.
Des archaïques qui défendons des équipes. Alors, en même temps, c'est très difficile parce que... nous-mêmes, nous avons des projets de santé parce que la médecine change. Parce que je vous ai évoqué ça, le problème de l'infarctus du myocarde. Il faut 6 heures pour arriver dans un centre. Donc, il faut regrouper les moyens. Donc, il faut que ces moyens soient répartis sur le territoire. Donc, les médecins eux-mêmes sont promoteurs de ça. Donc, c'est très difficile en même temps de dire vous êtes des archaïques.
Quelle est l'histoire de cette encore une fois, réforme, entre guillemets ? Ça s'inscrit à l'intérieur de la réforme générale des politiques publiques ?
Oui, d'une part. Mais d'autre part, c'est tout simplement, on dépense beaucoup pour la santé, ce qui est vrai. Alors, on en rajoute, on dit, on dépense le plus au monde, puis on rajoute après les USA. Et puis ensuite, quand on regarde, non pas en pourcentage de PIB, mais quand on regarde en euros distribués ou en dollars distribués, alors on n'est pas deuxième, on est cinquième. C'est-à-dire qu'on dépense moins que le Canada, moins que l'Australie, moins que les Pays-Bas, un peu plus que l'Allemagne. L'Allemagne a réussi à augmenter le reste à charge pour les patients, c'est-à-dire ce que payent les patients. On est passé de 11% à 13%. En même temps, le coût public a diminué. Les hôpitaux publics ont diminué, alors que les hôpitaux privés à but lucratif ont doublé, de 15 à 30% en Allemagne. Ils sont passés devant nous. Nous, on était déjà très élevés, on est à 25%, hein, alors que c'est zéro en Angleterre, c'est zéro en Belgique. Hein. On veut ressembler à l'Allemagne, et celui qui le dit le plus clairement, c'est Jean-François Copé, qui dit qu'il faut en finir avec le monopole de la sécurité sociale. Il faut que les assureurs privés prennent une part de plus en plus importante du coût de la santé, c'est-à-dire avec des primes, évidemment, qui seront payées par des patients.
Quand est-ce que l'hôpital public est devenu l'hôpital public ?
C'est pour ça que vous évoquez Bernard Debré. Mais c'est Bernard Debré, c'est tout simplement ce qui fait ce cri. On assassine l'hôpital public, que ce soit lui qui le dise, c'est qu'il est le petit-fils de Robert Debré. Hein, Robert Debré, c'est un gaulliste, mais de la résistance, du mouvement social, un disciple et ami de Péguy, donc c'était pas n'importe qui. Parmi les mandarins, il y avait aussi des gens comme ça. Et donc en 58 est né le grand hôpital public, à plein temps, universitaire, où on fait la formation, où on fait la recherche, et qui a irrigué toute la France. Le grand progrès, il y avait un grand retard. Le grand progrès est attaché au nom de Robert Debré avec une loi intégrative. On va faire venir les gens à l'hôpital, à plein temps. On va réunir la recherche, on va réunir les cliniciens, on va réunir l'enseignement. Ce qu'a fait Mme Bachelot, c'est strictement l'inverse. Donc c'est un drame pour Bernard Debré, quelque part, bien qu'il soit député UMP, c'est qu'elle a démantelé. Elle a dit l'université, c'est autre chose, l'enseignement, c'est ailleurs.
Comment elle justifie ça ? Quelle est sa...
La seule justification, c'est qu'on ne peut plus payer 11% du PIB pour la santé, pour les coûts publics, étant entendu que les Américains qui ont un système pour 50% privé. Parce qu'on ne peut pas avoir un système de santé que privé. Ça, c'est impossible, même dans le système le plus libéral qu'on veut. Hein, les très pauvres et les très graves, aucun assureur ne les prendra en charge. Et vous avez vu les difficultés d'Obama. Mais les USA, c'est 17% du PIB. La question, c'est pourquoi on va vers les USA ? Pas simplement parce que ça ne sera pas de l'argent public. C'est pas de l'argent solidaire, ça sera votre. Vous voulez payer comme vous payez votre voiture, ou vous, si vous, la, vous voulez une assurance très chère ou pas. Et alors, ça sera pas une médecine à deux vitesses quand on commence, qu'on dit, ce sera une médecine à 10 vitesses. L'assureur vous dira, vous voulez pour la famille, vous voulez aussi du bio, pas du bio, avec des bonus, avec des malus. Voilà, c'est le système. Alors pourquoi on va vers le système américain ? Parce qu'au fond, le système dont on pourrait dire, dont il faut se rapprocher, il a des défauts. Mais quel système étatique anglais, bien qu'il ne soit pas parfait, parce qu'il y a eu beaucoup de limitations, de carences, est le plus efficient. C'est-à-dire, en termes de, est-ce que, en termes de santé par rapport à ce qui coûte, c'est celui-là qui est le modèle. Alors, sans vouloir le recopier, parce qu'ils ont quand même pas mal de retard, pourquoi on va vers le système américain qui est le plus cher et le moins bon, y compris pour les couches aisées de la société. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grande étude a comparé les diabétiques anglais et américains, à salaire égal, à niveau culturel égal, le fait d'être américain est un facteur de risque de survenue de complications du diabète par rapport au fait d'être anglais. Mmh. Alors dans le grand débat qu'il y avait aux USA, on disait qu'est-ce qui est mieux, le système anglais ou le système américain ? Et la réponse était non, le système français. Donc voilà, donc quelque part, il y a chez les médecins des hôpitaux publics le sentiment d'un immense gâchis. Alors, comme vous avez dit, ça ne tuera pas. Enfin, c'est ma génération, parce que je suis la même génération que Bernard Debré. On monte un peu au créneau, ce qui est inhabituel pour les professeurs de médecine. Mais ça ne durera pas, parce que vient de passer la loi qui est désormais, les médecins des hôpitaux seront embauchés comme contractuels pendant 3 ans, renouvelables, pourront être mis, même révoqués avant, en fonction des besoins, avec alors une indemnité. Et ce sera le nouveau statut, ce qui est le statut dans les cliniques privées, ce qui est le statut dans même les hôpitaux privés à but non lucratif. Alors là, vous ne verrez plus de médecins protester, faire des tribunes dans le monde diplomatique. Profitez-en.
Est-ce que les partis politiques ont des projets alternatifs ?
Hélas, pas vraiment, bien que moi, je réponds à toutes les demandes. Parce que ce sujet clive les partis politiques. Je pense que ce que vous citez de Bernard Debré le montre. Au fond, l'idée que la santé ne peut pas être gérée par un marché, c'est pas une idée seulement de gauche.
Ouais.
Mmh. Hein, les malades ne sont pas des clients. Et du coup, ce marché est infini, parce que c'est si la définition de l'OMS est le sentiment de bien-être, est complètement manipulable, parce que la malade, c'est quelqu'un d'angoissé. Hein, donc, l'idée.
Et sa famille avec aussi.
Et sa famille, bien sûr, avec. Si c'est votre enfant, vous êtes prêt à vous endetter. Là, vous allez vous endetter à la banque pour sauver votre fils. Bon, et donc, évidemment, vous allez vous tomber sur tout n'importe quel charlatan. C'est ce qui explique d'ailleurs que les très riches, pour nommer personne, par exemple, cette chère Liliane nationale, eh ben, elle est très mal soignée.
Alors, on va se cotiser. Parce que, alors là,
parce
ça,
que,
c'est terrible.
Parce que, évidemment, tout ça rend, fou. C'est-à-dire que la solidarité est le meilleur système. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour l'ensemble de la population et pas seulement pour les pauvres. C'est pour ça qu'aussi, nous sommes attachés à l'égalité aux soins. Et pas une soi-disant d'équité. Parce que comme le dit un collègue, Frédéric Pierru, par exemple, il a une belle formule, il dit « Une solidarité pour les pauvres sera très rapidement une pauvre solidarité. » Et ça, nous le voyons, nous vivons actuellement avec l'assistance médicale d'État. On commence à dire que les immigrés viennent exprès pour se faire soigner, ils abusent, ils font de la chirurgie esthétique, il faut les faire payer. Enfin bon, on rentrera forcément là-dedans si on rompt avec le principe face à la maladie, face à la mort, le principe républicain celui de l'égalité.
Vous êtes vraiment archaïque. Alors, c'est bien ce que je pensais. Vous avez des questions à poser au professeur à part les problèmes de diabète ?
Quel rôle peuvent jouer les mutuelles ?
Hélas, elles sont le cheval de Troie. C'est-à-dire que les principes sont ceux d'une solidarité, bien qu'elles soient limitées aux cotisants de la mutuelle. Mais elles sont prises dans une logique de concurrence avec les assureurs privés. Ce qui fait que quand elles avancent, c'est les assureurs privés qui avancent. À chaque fois qu'on dit « la Sécu remboursera moins », ce sont les mutuelles qui vont le faire. En fait, ce sont les assureurs privés qui le feront. Si je puis me permettre une anecdote, j'ai rencontré Jean-Michel Laxalt, qui était le président de la MGEN, grande mutuelle, vice-président de la Mutualité française, qui me rapportait son entrevue à l'Élysée avec le président Sarkozy. Et il me dit quand on rencontre le président de la République, la Mutualité française, en général, on a un discours assez convenu qui est « je suis heureux de recevoir un des piliers du pacte social républicain ». Il a dit « là, c'était tout différent ». Le président Sarkozy a dit une première phrase, vous êtes ici au centre de décision nucléaire. Deuxième phrase, je n'ai rien contre vous. Troisième phrase, nous avons 2 points à l'ordre du jour, la discussion du financement de la solidarité et un point technique. Et il me dit, nous n'avons discuté que du point technique. J'ai dit, mais c'était quoi ce point technique ? Tout désormais est ouvert à la concurrence. Donc, la sécurité sociale a un monopole, les mutuelles n'en ont pas. Et quand on dit mutuelle, alors ce qui est dramatique, c'est que les mutuelles ont des éditoriaux dans leurs journaux de solidarité que je signe immédiatement, me font venir à leurs réunions, à leurs congrès, et on se sent en phase. Mais la réalité, c'est que les mutuelles servent comme les assureurs privés pour faire rentrer l'assurance privée, et elle rentrera ensuite à l'échelle européenne.
Merci. Le surnaturel orchestra. On a beaucoup parlé de la France. Le monde diplomatique parle en principe du monde entier, hein, chaque mois. Et là, on va parler de l'Italie. On va revenir sur des émeutes de Rosarno. Vous vous souvenez sans doute de ces émeutes racistes, xénophobes, contre des travailleurs saisonniers d'origine africaine dans cette région de Calabre. Et Christophe Ventura a enquêté et est revenu sur ce qui était présenté comme voilà une déplorable émeute xénophobe et raciste, et a découvert quand même d'autres aspects de cette histoire et des conditions de travail et d'exploitation des uns et des autres.
Absolument. Alors effectivement, où sommes-nous à Rosarno? On est dans une petite localité agricole du sud de l'Italie, donc en Calabre, dans le pied de l'Italie, à quelques dizaines de kilomètres de Reggio di Calabria, qui est la capitale de la région. Donc petite localité agricole, je disais, de 16 000 habitants, qui est dans une plaine, la plaine de Gioia Tauro, qui assure 40% de la production d'agrumes de la région calabraise. Alors il faut savoir que l'économie là-bas est avant tout agricole et que la production d'agrumes est la filière productive la plus importante qui structure en fait l'économie de toute la région. Donc on peut dire que Rosarno est le poumon de cette économie-là. Alors ensuite, les faits. Les faits, c'est que le 7 janvier 2010, une altercation va tourner à l'émeute, tout simplement, lorsque un jeune travailleur saisonnier, on les appelle là-bas les braccianti, qui sont donc les ouvriers agricoles qui viennent chaque saison faire la récolte des oranges, dans des conditions, disons, salariales et humanitaires absolument déplorables, j'y reviendrai tout à l'heure, reçoit des tirs d'une carabine à plomb. Et quelques minutes plus tard, deux autres de ses collègues se font aussi tirer dessus par des gens qui passent en voiture. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'ensemble ou une grande partie des centaines de travailleurs africains, on considère qu'ils sont environ 2000 à 2500 par an qui viennent faire cette saison, donc qui démarre dans les prochains jours d'ailleurs, dans mi-novembre, la saison va recommencer. Ils viennent, ils sont 2000-2500 et environ 10 000 dans toute la plaine. Et donc ça tourne à l'émeute, il y a une manifestation qui devient très violente et tout le monde est dépassé par les événements, à commencer par les forces de l'ordre, et tout ça tourne assez au carnage, on peut employer le mot, puisque en quelques heures, on va se retrouver avec des dizaines de blessés, blessés à coups de bâton, à barre de fer, cocktail Molotov, la ville s'embrase littéralement, opposant les travailleurs saisonniers aux habitants, petits paysans qui vivent là. Et on termine avec le bilan officiel de la préfecture, c'est qu'il y aurait eu 53 blessés, dont une vingtaine d'immigrés, une quinzaine de policiers et une dizaine d'habitants. Tout ça en quelques heures. Les pouvoirs publics, d'abord largement absents de la région, sont littéralement débordés et organisent ce qui va être appelé là-bas, et ce qu'on appelle là-bas encore aujourd'hui, la déportation, c'est le mot qui est employé, qui consiste à évacuer en toute urgence avec des dizaines de cars environ 700 travailleurs immigrés, donc vers deux autres villes, Bari et Crotone. Voilà, ça, c'est 48 heures. Évidemment, le pays est traumatisé, le choc, que se passe-t-il? Alors pas tout à fait, parce qu'en fait, ça fait déjà 2 ans qu'il y a une série de, comme ça, de révoltes, en fait, des travailleurs africains contre leurs employeurs, en particulier dans des modèles économiques d'exploitation qui sont largement parasités par la criminalité organisée. Alors, en Calabre, et c'est là où on découvre ça aussi un peu dans le reportage, cette mafia, c'est la 'Ndrangheta. Son argent vient essentiellement du trafic de drogue et d'armes. Et il faut comprendre que la 'Ndrangheta, dans cette région, est devenue le premier entrepreneur économique. Elle est réellement aux affaires et c'est une mafia qui est très entrepreneuse. Elle blanchit tout son argent dans l'achat de terres, dont elle va donc utiliser la culture, en particulier l'économie de l'orange. Et elle a aussi toutes les filières de commercialisation, de transport. Toute la filière est tenue par la 'Ndrangheta à travers des entreprises et un système de prête-noms assez efficace et très complexe que les autorités italiennes ont toujours du mal à décrypter. Alors évidemment, on va pas rentrer en détail maintenant, mais tout ça, c'est aussi lié quasiment à l'inexistence de l'État et des institutions publiques dans cette région-là, qui font qu'on est dans le cadre d'un capitalisme absolument sauvage, où la mafia, la criminalité organisée, devient assez naturellement le premier entrepreneur économique et qui impose des conditions de travail à des salariés qui ont à voir avec celles que nous connaissions en Angleterre ou en France, bien certainement au 18e ou 19e siècle. Et là-bas, souvent on croit que c'est des endroits un peu arriérés, on se dit oh là, tout ça se passe au fond de l'Italie, dans le Mezzogiorno, c'est presque plus l'Europe, etc. En fait, moi je crois pas. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est un peu un poste d'avant-garde de ce que peut donner un capitalisme sauvage, un affaissement de l'État et des forces économiques laissées elles-mêmes qui tombent dans les mains de la criminalité avec la population, les travailleurs qui sont les premières victimes de ça.
Thank you.
Merci. Le Surnatural Orchestra. Et pendant ce temps-là, à Dubaï, on prépare les soldes. Eh oui, la fête nationale à Dubaï, c'est les soldes. Alors, sauf que le pays est un peu en solde lui-même. Vous êtes au courant, ça passionne le monde diplomatique, ça nous passionne tous. Tous les matins, on se réveille, on se dit « Comment ça va là-bas à Dubaï ? Qu'est-ce qu'ils vont s'en sortir avec leur tour pharaonique ?» Non, c'est bien plus considérable que les constructions des pharaons. Mais voilà que le monde diplomatique nous annonce qu'il y a une compagnie aérienne que vous connaissez qui s'appelle Emirates, qui est liée avec ce miracle ou mirage qu'est Dubaï et qui va peut-être, et c'est Jean-Pierre Sereni qui va nous rassurer là-dessus, sauver cette entreprise magnifique qu'est Dubaï.
Oui, Emirates, c'est quand même un cas assez illustratif du monde baroque dans lequel on vit. Vous avez d'un côté une compagnie qui réussit dans le transport aérien, qui aujourd'hui est en grande difficulté. Il y a eu plein d'incidents, le kérosène a flambé, il y a eu le volcan qui a empêché les avions de tourner, il y a des problèmes de remplissage. Donc, en général, l'industrie du transport aérien est en difficulté. Et Emirates, au contraire, gagne beaucoup d'argent, se développe, achète des avions à Airbus. C'est le premier client d'Airbus. C'est aussi un gros client de Boeing, donc fait travailler des travailleurs français ou européens. En même temps, c'est un grand concurrent d'Air France et des compagnies européennes qui veulent qu'on mette un holà à la concurrence d'Emirates. Et puis, encore très baroque, sur le plan des usagers, vous avez une compagnie qui vous offre des prix avantageux et d'autre part un confort sans équivalent sur les autres compagnies. Alors là-dessus, vous ajoutez encore le fait que comment travaillent les gens d'Emirates, ils sont soumis au système qui est en vigueur dans toute la région du Golfe, qu'est-ce qu'on appelle le sponsoring. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous arrivez, vous avez un contrat de travail, ou vous n'avez pas de contrat de travail, mais vous donnez votre passeport à votre employeur, qu'il garde dans son bureau. Si jamais vous avez un problème avec votre employeur, il reprend le passeport, il vous conduit à la police et vous êtes expulsé illico presto. Donc dans ces conditions-là, si vous voulez, vous avez une situation qui est un peu à l'image du monde dans lequel on vit, où on a à la fois des gens qui sont surexploités, c'est le personnel, vous avez des gens qui profitent quand même de ce système, c'est les usagers, vous avez des gens qui sont victimes de la concurrence de ce système, c'est les travailleurs des autres compagnies aériennes européennes, et enfin, vous avez les ouvriers de l'industrie qui fait des avions, qui eux trouvent du travail grâce aux commandes d'Emirates. Alors, comment tout ce paquet peut évoluer et comment ça peut réussir à la fois durer, ce qui est évidemment l'ambition des gens de Dubaï, parce que Dubaï, c'est un tout petit État, c'est 2 millions d'habitants, mais c'est un pays émergent. Ils ont quand même réussi en 30 ans à faire un développement qui est spectaculaire et qui est connu, et donc ils veulent que ça continue. Et pour ça, il faut que l'immobilier ayant fait faillite, il n'y a plus de clients, il faut trouver autre chose. Et ils croient avoir trouvé l'avion, l'aviation Emirates. Et toute la question, c'est de savoir si Emirates, c'est pas encore un mirage comme l'a été l'immobilier.
Voilà, je vous remercie tous. Je remercie Serge Halimi, Jean-Pierre Sereni, André Grimaldi, Christophe Ventura et Daniel Le Linhart. Et je remercie aussi les musiciens du Surnatural Orchestra, au sax, Nicolas Stéphane, Gianno Salvatori, Fabrice Teuillon, Adrien Hamet, au sous-bassophone, Laurent Géant, au tuba, Chan Lefranc, à la batterie, Manu Penfenten, à la flûte, Cléa Torales, au trombone, Judith Beckstein, et à la trompette, Julien Rousseau, qui vont clore cette rencontre avec le monde diplomatique autour du numéro du mois de novembre. Merci à tous.
Eins dicke Kuh, eins togo Glicht, Koch uns auf Flucht, eins Kog mein Licht, eins duck old Glühns, Flucht togo Glicht, eins bleike Kuhns. Sick boys, decaying Louis, made.
Ein Glückkreuz bei der Kohlein, bei der Kohlein. Licht eins Loch auch Pfingst.
Merci. Merci aussi aux techniciens modestes et géniaux de Radio France. Merci à tous.
C'était l'émission mensuelle avec le monde diplomatique, enregistrée en public à la Java par Hervé Dubreuil et Benjamin Perru pour Radio France, montage Antoine Chao. Merci à Christine et Mani de la Java. Et puis, vient de sortir dans vos kiosques et librairies un hors-série, Le monde diplomatique en bande dessinée, dans lequel vous retrouverez entre autres Fermez la bourse de Frédéric Lordon et François Ruffin dans son roman photo Les derniers jours de Bérard Arnault. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émissions. Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Éric Morin. Réalisation Coy Nguyen et Franck Adhérer. Assistante Agnès Le Botte. Chef du répondeur, Marina Touyez. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin.
Fin de la prise d'otage au siège de BMW France à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. L'homme armé qui retenait en otage plusieurs personnes s'est rendu aux policiers du RAID sans violence. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un salarié de l'entreprise. En Charente, dans la commune de Château-Bernard, un ancien gendarme a tué 3 personnes avec un fusil de chasse avant de retourner l'arme contre lui. Le drame s'est passé dans une déchetterie. L'homme suspecté de vol sur les lieux avait été entendu par la police. Ce matin, il a abattu 2 femmes, employées de la déchetterie ainsi qu'un client. Avant de se tirer une balle dans la tête, il est hospitalisé et son pronostic vital est engagé. Il y a peut-être 2 Français de plus otages au Nigeria. Un enlèvement s'est produit cette nuit sur une plateforme pétrolière de la compagnie Afren au large de Lagos. 5 personnes ont été enlevées et 2 Français pourraient en faire partie. Les 3 autres seraient américains et canadiens. Le MEND, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, pourrait être derrière cet enlèvement. La zone du delta du Niger, cœur de la production pétrolière du pays, est très instable et fréquemment soumise à des attaques. En Russie, le président Dmitri Medvedev promet de punir les coupables de l'agression d'un journaliste du quotidien Kommersant. C'était il y a 2 jours. Oleg Kachin est toujours plongé dans un coma artificiel. Et puis un autre journaliste russe travaillant pour un quotidien régional a été passé à tabac la nuit dernière près de Moscou. De nombreux crimes contre les journalistes n'ont pas été élucidé ces 10 dernières années en Russie, à l'instar de l'assassinat en 2006 d'Anna Politkovskaya. Alors que des négociations sur le Sahara occidental s'ouvrent aujourd'hui près de New York sous l'égide des Nations Unies, l'assaut mené par les forces de l'ordre marocaines contre un campement dans la région a fait au moins 3 morts. Plus de 10 000 personnes s'étaient installées sous des tentes pour protester contre les dégradations de leurs conditions de vie. Un gendarme, un policier et un pompier marocain sont morts au cours de l'évacuation. De son côté, le Front Polisario, qui demande l'indépendance du Sahara occidental, annexé par le Maroc en 1975, accuse les militaires marocains d'avoir fait des centaines de blessés civils. Le passage de l'ouragan Thomas en Haïti vendredi a fait au moins 20 morts et 36 blessés. 6 000 familles sont sinistrées, c'est le bilan établi par la protection civile haïtienne. 36 000 personnes ont été évacuées et de nombreuses routes sont toujours coupées en raison de fortes inondations et de glissements de terrain. Laura Flessel ne sera pas médaillée au championnat du monde d'escrime à Paris. Elle a été battue en quart de finale à l'épée. Triple médaillée olympique, sextuple médaillée mondiale. Celle qu'on surnomme la guêpe est encore en lice pour l'épreuve par équipe de vendredi. Et puis une autre française, Maureen Nissima, est en revanche qualifiée pour la demi-finale à l'épée. De fortes têtes des lettres françaises récompensées aujourd'hui. Michel Houellebecq remporte le Goncourt pour La carte et le territoire paru chez Flammarion. Et Virginie Despentes décroche le Renaudot avec Apocalypse Bébé, publié par Grasset.
ce soir. À 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandrine Mercier.
Les hommes ont toujours voulu se rapprocher des dieux. Les voyageurs aussi. Ce soir, mille et une façons de fréquenter des lieux sacrés. Nous irons en Corée du Sud, en Birmanie, à Jérusalem et sur le mont Athos, ouvert aux filles exceptionnellement ce soir à partir de 21h.
France Inter et le Musée du Louvre présentent Patrick Chéreau, grand invité du Louvre, les visages et les corps. Des expositions, du théâtre, de la danse, du cinéma, de la musique, des rencontres. Retrouvez Patrick Chéreau, les visages et les corps, jusqu'au 31 janvier au Musée du Louvre et dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, c'est l'heure de rejoindre Frédéric Lodéon pour son carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. On dit que la musique est universelle parce que son langage peut être compris de tous. C'est souvent vrai, mais s'il y a aussi un texte parlé ou chanté, les choses sont plus compliquées. À l'opéra, on surtitre les paroles, à la télé, on les sous-titre, et puis dans le cas, par exemple, du directeur de théâtre de Mozart, comédie avec musique, c'est là que c'est important. Il y a du texte parlé, mais quelquefois fort long, et les gens aiment ça, ils rient, à condition, évidemment, qu'ils comprennent l'allemand. Alors, c'est pour ça, peut-être que cette œuvre n'a pas fait une si grande carrière chez nous. Enfin, il y a des passages musicaux tout à fait passionnants. Par exemple, l'ouverture. Ouverture du directeur de théâtre de Mozart, interprété par l'Orchestre National de l'Opéra de Norvège, dirigé par Rinaldo Alessandrini. Mais nous allons rester en Norvège, si vous voulez bien, avec Edvard Grieg, qui a reçu un jour une commande du fameux Ibsen, dramaturge fort connu. Et en 1867, Ibsen avait écrit son poème épique, Peer Gynt, et il avait campé là un fils de paysan, menteur, extravagant, égoïste, qui revient à la maison après des années d'exil pour mener enfin une existence raisonnable. Il retrouve la chère Solveig qui fidèlement a attendu son retour. Et